Il est 6h20, le port du masque, les décrocheurs, la rémunération des enseignants. Jean-Michel Blanquer a dévoilé hier après-midi les contours de la rentrée scolaire. Et j'en profite pour vous signaler que le ministre de l'Éducation sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. C'est à 8h20. Bonjour Rachid Zerouki.
Bonjour Mathilde Munoz, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes enseignant en SECPA à Marseille, beaucoup vous connaissent sous le pseudo Rachid l'Instit sur Twitter. Et vous publiez aujourd'hui un livre passionnant pour raconter votre parcours, mais surtout cette expérience de professeur auprès d'élèves en grande difficulté scolaire. Il s'intitule « Les incasables ». On va y revenir bien sûr, mais d'abord cette rentrée, vous allez faire votre 6e rentrée, vous êtes un jeune prof, une rentrée forcément particulière à cause de l'épidémie de Covid. Est-ce que vous avez hâte quand même?
Bien sûr, j'ai toujours hâte. C'est une rentrée qui est bien sûr particulière. Chaque rentrée apporte son lot d'angoisse. Chaque rentrée est stressante, mais c'est vrai que à l'angoisse habituelle s'ajoute cette fois-ci celle qui est liée au coronavirus. C'est une rentrée qu'on n'est pas prêt d'oublier. C'est une rentrée sous le signe de masques, de gel hydroalcoolique, de protocoles sanitaires. Je crois que vraiment le défi va être d'assurer au maximum la sécurité des élèves et du personnel, mais vraiment tout en évacuant cette angoisse et ce stress qui est lié au coronavirus.
Et à ce sujet, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, promet, dans une interview au Parisien aujourd'hui en France, une année normale. Normale dans le sens où les cours, dit-il, auront lieu dans l'immense majorité des cas. Une année normale, vous y croyez ?
C'est ce que j'espère en fait. C'est ce que j'espère. Moi, l'année dernière, je trouve que l'apprentissage a été vraiment marqué par le coronavirus. Ça a été un obstacle majeur, je trouve, dans le cadre de l'apprentissage, puisque le distanciel n'a pas été une réponse adaptée. Je pense à mes élèves qui ont besoin vraiment d'une présence physique, d'une présence humaine. Pour être mis au travail. Donc moi, vous savez, je reste optimiste, j'espère une année normale, mais c'est vrai qu'il y a des raisons de douter. Vous savez que moi, je suis dans les Bouches-du-Rhône, la situation est inquiétante à Marseille, et j'espère qu'elle ne deviendra pas dramatique et que ça ne nous obligera pas à fermer les établissements.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre de ces cours à distance. Vous dites que ça marche pas avec tout le monde. Il y a même carrément un chapitre qui est consacré à ce sujet qui s'appelle les Digital Natives. C'est comme ça que vous qualifiez ces jeunes. Voilà, grosso modo, vous dites on peut savoir jouer à Fortnite et pas savoir utiliser un traitement de texte.
Exactement. Moi, ce que j'ai tenu à mettre en lumière dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique de second degré. La fracture numérique de premier degré, c'est celle qu'on connaît depuis les années 90. Elle est liée au matériel et c'est déjà un problème parce que, vous savez, on a beaucoup parlé de ce problème de matériel. Beaucoup de mes élèves possèdent un matériel informatique. Ça peut être un smartphone, ça peut être, je sais pas, une télé connectée, mais très peu possèdent un ordinateur portable. Donc ça, c'est déjà la fracture numérique de premier degré, et c'est un problème. Mais effectivement, j'ai tenu à parler de la fracture numérique de second degré, qui est celle liée à l'usage qu'on fait de cet outil numérique. Moi, quand j'étais à la fac, on m'a fait lire Petite Poussette, le livre du regretté Michel Serres. Et dans ce livre, il nous explique effectivement que les jeunes seraient tous des digital natives, qu'ils seraient tous à l'aise avec l'outil numérique et qu'on doit adapter l'enseignement par rapport à ça. Et c'est vrai qu'une fois sur le terrain, j'ai remarqué que pas du tout, en fait. Les élèves possèdent quasiment tous un outil numérique. Ils savent jouer à Fortnite, ils savent aller sur Snapchat. Mais une fois qu'ils doivent faire un usage éducatif de cet outil numérique, il y a énormément de difficultés et ils ont du mal avec des tâches aussi simples qu'ouvrir un navigateur ou que taper un site sur une barre d'adresse.
Et ces décrocheurs, donc, qui n'ont quasiment pas suivi de cours depuis 6 mois, comment les récupérer ? Comment vous comptez faire, vous, concrètement, à la rentrée ?
Moi, je pense que, vous savez, je reste optimiste et je pense que les élèves qu'on dit décrocheurs vont revenir. Je pense que durant ces derniers mois, on a beaucoup parlé d'élèves décrocheurs et je crois que la définition qu'on a donnée à ce mot est différente de la définition scientifique. Un élève décrocheur, c'est pas un élève qui a des difficultés, c'est pas un élève qui a séché les cours après le déconfinement, même si c'est grave. Un élève décrocheur, c'est quelqu'un qui ne croit plus à l'école, qui ne croit plus qu'elle puisse lui apporter quoi que ce soit et qui la quitte. Moi, je pense pas que ces élèves ont quitté l'école. Je pense qu'ils ont eu du mal à revenir et que là, la rentrée bon, on lui donne des airs de normalité, donc j'espère vraiment les récupérer. Le retard qu'on a pris durant ces derniers mois, c'est vrai que pourra peut-être pas être rattrapé entièrement, mais je compte sur la présence de tout le monde. Et voilà, je pense qu'il
optimiste,
va falloir faire
dites-vous,
preuve.
Ça se voit.
Oui, tout à fait. Ça de l'optimisme et de l'empathie et pour comprendre les différentes situations.
Et l'empathie, alors ça, on le voit vraiment encore plus, d'ailleurs, dans votre livre. L'amour de votre métier, ça transpire à chaque page. Vous dites d'ailleurs que l'école vous a tout donné à vous, et on comprend en fait que vous essayez de faire de même avec vos élèves, hein, que vous qualifiez donc d'incasable. Vous dites en fait que ce sont ceux qui prennent les coups, les gamins qui sont en bas de l'échelle, ceux qui sont au fond de la classe et qu'il faut surtout pas oublier.
Exactement, en fait c'est ça, la SECPA, ce sont les gamins qui étaient au fond de la classe durant l'école primaire, qui ont subi beaucoup d'échecs, qui ont ce fléau qu'on appelle l'impuissance apprise, c'est-à-dire que ils ont tellement essayé, tellement échoué, qu'ils ne croient plus en leur propre réussite et qu'ils ne fournissent plus d'efforts. Donc je crois qu'il faut vraiment leur redonner confiance, c'est vraiment l'objectif principal, et puis ça passe effectivement par le fait de les comprendre et de comprendre d'où viennent leurs difficultés.
Et c'est parfois très dur, hein, puisque vous le racontez, il y a des enfants qui rêvent d'être avocats ou médecins, la plupart n'y arriveront pas, la très grande majorité. Vous dites, on assiste à petit feu à la mort de leurs rêves d'enfant, et il y a un peu plus loin une question terrible qu'un élève vous a posée un jour, je ne sais pas comment j'aurais réagi moi à votre place, « Monsieur, pourquoi est-ce qu'on est nul ?»
Oui, pourquoi est-ce qu'on est nul? C'est vrai que accompagner cette prise de conscience professionnelle, cette prise de conscience, c'est-à-dire, oui, vraiment, quand les rêves meurent, c'est ce qu'il y a de plus difficile, selon moi, dans ce métier. Et c'est vrai que là, la question était claire, mais c'est une question que se posent systématiquement mes élèves, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'y arrivent pas? La sociologie permet de donner des réponses à ces questions, et effectivement, dans le livre aussi, je m'interroge, je me dis, est-ce qu'il faut vraiment fournir ces réponses-là sociologiques, qui peuvent aussi être très difficiles à ces élèves?
Ce qu'il faut leur dire, vous êtes victime du déterminisme social, voilà. C'est pas facile
exactement
à dire.
Exactement, et voilà, c'est pas facile à dire, et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de réflexion avant de fournir ces clés sociologiques qui nous permettent de comprendre en tant qu'adultes, mais je ne suis pas tout à fait favorable à dire ça effectivement à des jeunes enfants.
Merci Rachid Zerouki, et dans votre livre qui est vraiment très honnête, il n'y a pas d'angélisme non plus, ces enfants, ils vous saoulent, parfois ils vous énervent, ils vous épuisent, vous piquez des colères, et ça aussi vous le racontez dans votre livre qui s'appelle Les Incasables. Merci beaucoup, vous étiez notre invité Déjà Debout.